Après ces 3 années de formation au sein des meilleures universités de cette Babylone, la perle des cités du monde d'alors, Daniel devint premier ministre, s'il vous plaît, du roi Nebuchadnezzar. Il aurait pu quand même refuser ce poste. Et puis le Seigneur nous donnait peut-être très bientôt un premier ministre chrétien qui sortira de l'assemblée de Betancourt. J'en sais rien. En tout cas, pourquoi l'exclure quand on pense à ce qui se passe aux États-Unis? Il existe de hautes personnalités dans tous les univers qui sont d'authentiques chrétiens. Aux États-Unis, il y a des sénateurs qui sont des chrétiens et qui pèsent sur les décisions du Sénat aux États-Unis en faisant intervenir l'Écriture sainte. En Suisse aussi, et j'ai rencontré il y a peu de temps un député à Berne qui s'est fait élire par des Suisses, qui est chrétien, qui a appartenu, je crois qu'il a changé d'endroit maintenant, il était au Locle pendant un certain temps, et qui maintenant habite Berne. Il est un député, et puis là, pour ce qui a été de l'avortement, il est intervenu de façon très claire, avec la parole de Dieu en main, pour empêcher, justement, que l'avortement ne soit accepté du gouvernement suisse. Mais on a besoin de gens de ce type qui ont la dimension, j'allais dire, politique nécessaire afin de pouvoir intervenir dans ce sens pour toutes sortes de problèmes de crise dans lesquels nos gouvernements et nos pays peuvent passer. Eh bien, Daniel avait accepté ce poste de premier ministre. En fait, et par là, il avait accepté de cohabiter. Voilà, on y est. Avec Nebuchadnezzar. Une cohabitation, hein. Vous auriez accepté un tel poste, vous? Je crois que j'aurais fait comme Jonas, hein. J'aurais pris un navire pour Tarsis. Bon, en tout cas, c'est fou. Mais Daniel avait accepté de gouverner avec un roi païen. Un roi même qui était une figure prophétique de l'Antéchrist. Et ceci pour peser en tant que témoin de Dieu sur les décisions du roi. Et il a pu le faire. De plusieurs manières, la Bible, plutôt son livre, nous le rapporte. Il est écrit en Daniel 2,48 que le roi l'établit chef suprême. Deuxième à Babylone, tandis que ses amis accédèrent eux aussi à des situations importantes comme intendant des provinces. Et savez-vous quelles autres décisions ils durent prendre, en plus de cette première décision de faire équipe, de se serrer les coudes, de se rencontrer pour le partage, de se rencontrer pour la prière, c'est important. Ils avaient aussi pris la décision que bien que loin de leur pays, pays d'Israël, cher à leur cœur, dans ce royaume païen, ils vivraient pour leur Dieu, hein, coûte que coûte. Moi, je crois que c'est une décision que nous devons prendre aussi. Dans la faiblesse. Mais que nous devons aussi prendre pour qu'avec l'aide du Seigneur, nous puissions tenir le coup. Quand je pense à nos jeunes, ces hommes étaient jeunes. Quand je pense à nos jeunes, bon, de mon temps, lorsque j'étais jeune, je le suis encore, si vous le permettez. Comme vous le savez, je dis souvent que la jeunesse n'est pas une question de tranche d'âge, mais une question d'état d'esprit. Hein. Mais il reste qu'on a l'âge de ses artères. Quand j'étais jeune, bon, la pression diabolique sur nous était bien moindre que celle que nos jeunes vivent aujourd'hui. Fou ce qu'ils. Il faut aussi que nous les comprenions et que nous les portions au Seigneur pour qu'ils vivent des choses que nous n'avons pas connues et qui nous dépassent littéralement et pour lesquelles très souvent nous sommes complètement à côté de la plaque parce que nous ne les comprenons pas. Nous n'avons pas connu ce genre de situation auquel eux, nos jeunes, sont confrontés, mais tellement jeunes, à l'âge de 12, 13, 14 ans, ils nous en apprennent, hein, surtout, hein, déjà. Hein. tellement ils en savent des choses. Ça, nous ne l'avons pas connu. Nous avons été quand même sous la tutelle de parents qui nous ont tenus jusqu'à l'âge au moins de 18, 19 ans, et même 21 ans, puisque c'était en ce temps-là, j'allais dire, encore que ça n'est pas très loin dans le temps, l'âge de la majorité. Aujourd'hui, on est majeur à 18 ans. Franchement, mais un jeune à 18 ans, franchement, est-ce qu'il est mûr? On lui donne d'être majeur. Mais je crois qu'il y a eu là quand même une erreur assez monumentale de la part de certains, mais je ne juge personne. Mais il reste néanmoins que nos jeunes connaissent des situations excessivement difficiles, confrontés à des problèmes que nous n'avons pas connus. Et il importe que nous comprenions ces situations, que nous les creusions afin de pouvoir les aider au mieux. Quels jeunes? Mais nos jeunes dans nos assemblées, dans nos églises. Et qu'elles vont au lycée, au collège, à l'université, de ce qu'ils peuvent en entendre, hein, de Babylone, et puis de tout ce que vous savez, ça, c'est presque pas pensable pour ce qui nous concerne. Alors ils décidèrent, il faut encourager nos jeunes dans ce sens, et puis nous-mêmes, hein, ils décidèrent que, bien que loin du pays d'Israël, comme c'est notre cas, nous sommes encore loin de notre pays, hein, quelle est-il notre pays ? Ciel, hein? Bien que loin de leur pays, loin de Jérusalem, loin de leur temple, etc., coûte que coûte, ils vivraient pour Dieu. Ils décidèrent de ne pas se fondre, encore moins de se confondre au monde corrompu, environnant. Aucune compromission avec ce monde de corruption de Babylone, et ce encore qu'en serait le coup où ils décidèrent de donner à Dieu la première place. Fantastique. La première place pour Daniel, l'Éternel passé avant Nebuchadnezzar. Je veux bien être ton premier ministre, hein, cohabiter avec toi, hein, mais sache, ô roi, qu'il en est un qui passe avant toi, l'Éternel mon Dieu. C'est beau ça. Et quand il avait fallu plier le genou, hein, ou obéir au roi dans des circonstances qui ne correspondaient pas à ce que Dieu voulait pour Daniel, et aussi pour ses amis, eh bien, il donnait gloire à Dieu. Et c'était l'occasion de démontrer qu'ils croyaient réellement dans leur Dieu. Ils décidèrent donc d'obéir, d'honorer, de glorifier à tout prix leur Dieu. Témoin à Babylone, n'est-ce pas? Témoin, quel qu'en serait le prix. Je ne sais pas si nous avons déjà pris une telle décision. Pour ce qui concerne nos vies chrétiennes. Ceci était allé de façon assez... Je vais dire, sans problème, jusqu'au chapitre 3. Puis au chapitre 3, quoi? Oh, tout à coup, la première opposition, hein, à leur foi, qui fut très forte. Nebuchadnezzar, au cours d'une crise, certainement d'une très forte crise de mégalomanie, d'orgueil donc, hein, avait fait élever une statue en or massif, s'il vous plaît. Donc, je vous donne les mesures. 27 mètres de haut. 2,70 m de large, dans la vallée de Dura. Pourquoi cette statue? Certainement que cette statue avait été élevée en souvenir de la vision qu'il avait eue en Daniel 2, dont il a été question hier. Hein. Mais dans la statue de Daniel 2, seule la tête avait été d'or. Tandis que là, toute la statue de la tête aux pieds, avait été une statue en or massif. Il nous semble que par cela, Daniel avait voulu comme refuser qu'un empire pourrait lui succéder et ne pas être à son tour en or massif comme la tête qui le représentait lui. Et qu'il avait eu par, j'allais dire, cette statue dressée dans la vallée de Dura, cette ambition que toute la statue devait être en or et pas dans les métaux que vous savez, depuis l'or jusqu'au fer et même jusqu'à l'argile qui n'est pas un métal. Mais cette statue, en fait, que représentait-elle? Sinon, lui-même, puisque l'or était le symbole de Babylone. Hein, je vous l'ai dit, Hérodote, un historien grec, s'était rendu à Babylone après le règne de Nebuchadnezzar, et il avait pu dire dans ses écrits qu'il n'avait jamais vu autant d'or de sa vie qu'à Babylone. Babylone était réellement la ville en or massif, j'allais dire. Hein. Bon, alors le voilà donc dressant une statue qui devait certainement le représenter, une sorte d'image de lui-même. Et nous pouvons dire que, en cela, il était un prototype de l'Antéchrist. Et surtout prototype parce que non seulement cette statue le représentait, une image de lui-même, mais c'est aussi un prototype parce que il avait obligé tous ceux qui dépendaient de lui et qui occupaient, j'allais dire, le plus haut rang, de se prosterner devant elle. Et en se prosternant devant cette statue dans la vallée de Dura, c'est en fait devant lui que tous devaient se prosterner. Et encore par là, par le biais de cette statue, eh bien, il s'était lui-même érigé en Dieu jusqu'à se faire adorer. Voilà certainement ce qu'avait compris Daniel et puis ses compagnons. Hein. Bon, on peut se poser la question de savoir où était passé Daniel dans cette circonstance. Hein, il était peut-être allé faire un tour ailleurs. Bon, et peut-être que même le roi, pour ne pas le gêner, parce que la Bible dit que le roi appréciait Daniel, hein, pour ne pas l'embarrasser, on n'en sait rien. Donc il ne s'agit que de spéculation, mais disons que nos commentateurs ont évoquer toutes sortes de possibilités. Mais on pourrait aussi se poser la question de savoir où étaient passés les trois amis de Daniel lors de la fosse aux lions dans laquelle Daniel s'était retrouvé du temps de Darius Ier, le Mède. Alors il n'est pas du tout question des compagnons de Daniel. Je crois qu'ils ont eu chacun leur lot d'épreuves, de souffrances et de difficultés. Mais loin de nous la pensée de croire que peut-être Daniel avait dû, pour finir, obéir à cet ordre de Nebuchadnezzar, sûrement pas. Et puis, loin de nous aussi, la pensée que les trois amis de Daniel, en Daniel 6, du temps de Darius, pour finir, durent accepter de se prosterner devant Darius, de le prendre lui aussi. Voilà un prototype de l'Antéchrist. C'était curieux que ces monarques des temps passés avaient toujours voulu supplanter le Dieu des cieux, pour se faire adorer à sa place. Une statue donc dressée dans la vallée de Dura, dans quel but, bien entendu, se faire adorer de tous. Et dans cette unique occasion, comme je le disais, il a fait venir les satrapes, les ministres, les juges, les trésoriers, les magistrats, les intendants, les gouverneurs des provinces, ainsi que des représentants de toutes les nations connues d'alors, mais qui occupaient les plus hauts rangs dans son royaume, afin de les voir se prosterner devant lui. Mais nous courons, mes amis, vers ce genre de situation, à l'heure qu'il est. Paul-Henri Spaak, que je citerai demain, et qui a été ministre de la Belgique en son temps, et qui a été aussi, parmi d'autres, un initiateur de l'Europe. Cet homme a dit: l'Europe ne se fera jamais à partir de comités ni de commissions. On en a assez de ces choses. À l'heure qu'il est, il nous faut un homme charismatique. Quand je dis charismatique, c'est-à-dire d'une dimension exceptionnelle. Hein. Un homme doué, parce que le mot charismatique, comme vous le savez, vient du mot don en grec, charisma. Mais on peut être très charismatique au plan politique, j'entends. Hein. Et c'est dans ce sens que lui a pensé à un homme charismatique. Un homme qui pourrait être de n'importe quelle race, a-t-il dit. Il pourrait être un civil ou un militaire, mais un homme qui soit un leader et qui se fasse respecter des chefs d'État et des nations tout entières. Un homme qui pourrait prendre en main l'Europe. Mais quand vous pensez que Paul-Henri Spaak a dit ça il y a déjà plusieurs années, au moment où l'Europe venait de se faire, alors il a même dit qu'il soit Dieu ou diable, on l'accepte. Parce que nous connaissons réellement des crises, et les crises du temps de Paul-Henri Spaak n'atteignaient pas, j'allais dire, l'acuité de nos crises à l'heure qu'il est. Et déjà, cet homme, ce ministre belge, en avait appelé à un homme. Et aujourd'hui, nous en appelons à un homme, n'est-ce pas? Un homme qui pourrait dominer sur les dirigeants du monde entier. Très exactement ce que nous fait savoir les pieds de la statue, nous font savoir les pieds de la statue, les 10 orteils, Et un peu plus loin, il a dit que, Daniel 7, n'est-ce pas, que le royaume d'Occident, Rome, voudra occuper toute la terre, la ravagera littéralement, l'écrasera. Et puis de ces 10 cornes sortira une corne qui dominera les autres cornes et qui sera précisément l'antéchrist. Il faut faire la différence, nous le dirons demain, entre la petite corne qui sort et qui devient grande, n'est-ce pas, très puissante, de Daniel 7, à partir de l'Empire romain, qui est cette bête indéfinissable, hein, après le lion ailé, après l'ours, après le léopard ailé, n'est-ce pas, il y a une bête indéfinissable, tellement elle est monstrueuse, et la corne qui sort de cette bête-là, c'est véritablement l'antéchrist. Mais l'antéchrist final au plan mondial, nous le verrons demain soir, venez, le message sera intéressant. Tandis que la petite corne qui sort des quatre rois qui ont succédé en Daniel 8, la petite corne qui sort du royaume de la Grèce, n'est pas du tout l'antéchrist. La petite corne, c'est Antiochus Épiphane qui sort du royaume de Grèce, mais qui représente un prototype de l'antéchrist, nous le verrons demain, surtout du temps des Maccabées. Bon, je n'anticipe pas sur l'étude de demain soir à laquelle vous êtes cordialement invité pour en savoir davantage. Mais il reste qu'il y a ressemblance entre ces cornes, celle du chapitre, la petite corne, celle du chapitre 7 et celle du chapitre 8. Alors un homme qui domine tous les chefs d'État, en particulier les 10 cornes, et puis ensuite qui dominera le monde tout entier, en cela, le roi était vraiment une sorte d'antéchrist annoncé parce qu'il fera de même. Toute résistance à cet ordre. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure d'idolâtrie obligée devant cette statue. Toute résistance à cet ordre entraînait sur le champ la mort par le feu dans une fournaise ardente. Et quelle épreuve. Alors Babylone représentait la sécurité matérielle. Babylone représentait tellement de choses. Et cette petite équipe aurait pu se fondre là, hein, dans cette Babylone, sans que personne n'ait pu remarquer, j'allais dire, leur trahison. Eh bien non. Et puis, le fait d'obliger à l'adoration, au culte, à la statue, annonçait également la grande religion finale dont nous parle le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, au chapitre 17, cette grande religion que la Bible qualifie de prostituée, qui n'est pas la vraie religion. La Bible dit qu'à l'approche de la fin des temps, une grande religion mondiale sera instituée. Mais ceci, Alexandre le Grand, qui a été en son temps un prototype de l'Antéchrist lui aussi, et Antiochus Épiphane, qui est sorti d'Alexandre le Grand, et surtout de cette branche orientale d'Alexandre le Grand, de la dynastie des Séleucus, Antiochus Épiphane avait imposé, je vous lirai des textes demain soir, du livre des Maccabées, comment, que j'ai pris avec moi justement dans ce but, comment Antiochus Épiphane avait décidé que tous les hommes sur lesquels il régnait devaient avoir la même religion, la même culture. C'est pour ça qu'il avait introduit jusque dans le Saint des Saints la statue de Zeus Apollon, de Bacchus et d'autres idoles. Il voulait absolument imposer la culture grecque en Palestine aux Juifs. Il avait interdit la circoncision, interdit la pratique du sabbat, interdit tout ce que les livres sacrés avaient enseigné au peuple de Dieu. Et il avait voulu absolument helléniser, c'est-à-dire rendre grec, la Palestine, en même temps que toutes les régions sur lesquelles il dominait à la suite du grand Alexandre le Grand. Eh bien, cette grande religion finale est en marche, une religion mondiale, universelle, une super religion qui forcera, comme l'a fait Nebuchadnezzar, tous les hommes, de toutes les langues, de toutes races, à adorer qui? Quoi, la bête? La bête et son image. Nebuchadnezzar avait fait adorer son image dans cette statue faite d'or massif. En tout cas, Nous pouvons dire que, sur tous les plans, ce Nebuchadnezzar était réellement un type de l'Antéchrist. Et toutes nos crises, et toutes les crises par lesquelles était passée cette petite équipe, toutes nos crises qui leur ressemblent à ces crises, par lesquelles nous pouvons passer, je le disais tout à l'heure, rappelle un homme politique d'une envergure exceptionnelle, donc un homme charismatique, au plan économique, sur tous les plans, pour régler ces immenses problèmes qui sont, à l'heure qu'il est, des problèmes mondiaux et qui ne s'en sont pas cantonnés à une région particulière du monde. Nous avons tous, en tant qu'humains, sur la surface de la Terre, nous avons les mêmes problèmes. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que réellement nous touchons à la fin des temps. Tandis qu'à l'époque, bon, il n'y avait que Daniel, la petite équipe, le peuple d'Israël, qui connaissait ce genre de situation. Nebuchadnezzar ne régnait que sur le monde connu d'alors, qui quand même était très restreint vis-à-vis du monde que nous connaissons de nos jours, et qui est, disons, le monde avec ses 5 continents. Alors, la petite équipe, pouvait-elle obéir, se prosterner devant la statue, pour se rendre agréable au roi? En fait, il y avait une telle foule là qu'il aurait pu passer inaperçu. Personne ne les aurait remarqués. Eh bien non. Ils avaient donc convenu de ne pas se prosterner. Au sein de cette foule d'hommes importants venus de partout du royaume. Et ce fut pour eux l'occasion justement de manifester leur foi dans l'Éternel. Et voyez-vous, nous vivons dans un monde de plus en plus conformiste, au sein duquel nous devons, j'allais dire, vivre de la façon la plus inconformiste qui soit. Et Dieu sait combien les courants sont puissants, sont énormes. Il nous faut lutter comme à contre-courant. Voilà donc un exemple merveilleux. C'est pourquoi j'ai pensé vous parler de cette petite équipe, parce que nous sommes obligés de vivre dans une certaine mesure ce qu'ils ont connu. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit l'apôtre Paul aux Romains 12, en Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour vous situer, j'allais dire, dans les structures de Dieu, pour vivre selon la volonté de Dieu. Le texte en grec est vraiment intéressant là. Parce que le verset en grec dit ce qui suit, « N'ayez pas les schémas du siècle. » Ma Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais le grec dit, « N'ayez pas les schémas de ce siècle. » C'est-à-dire les structures, les modes de penser, de voir, d'envisager. Vous n'êtes plus dans ce monde. N'ayez pas les schémas de ce monde. On est quand même dans ce monde. « Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire, par la nouvelle naissance, la régénération, vous avez été transformés. Alors, pour quitter les schémas de ce siècle, afin de vous situer sur les schémas de Dieu, qui sont des schémas de vie, des schémas de paix, des schémas, j'allais dire, de joie aussi, des schémas d'obéissance à la parole de Dieu, des schémas de témoignage. Et c'est là, j'allais dire, tout le témoignage que nous avons à rendre, un peu comme avait à le rendre, ce même témoignage, la petite équipe en son temps. Alors, quel aurait été votre choix? Se prosterner devant la statue en or ou le feu? Nous n'avons jamais été confrontés à ce genre de choses. Si ça nous arrivait, bon, il y a des endroits, alors qu'il est dans le monde, où les chrétiens connaissent ce genre de preuves aujourd'hui. Ne croyez pas que des chrétiens dans le monde, dans certaines régions du monde, connaissent cette liberté que nous avons, nous, par exemple en France, certainement pas. Alors la cohabitation, oui, mais jusqu'où ne pas aller? Jusqu'où la vivre? Cette équipe avait déjà beaucoup accepté. Elle avait accepté quoi? Rappelons vite les choses. Hein. Elle avait accepté qu'on, disons, l'est enlevé de son pays, le pays d'Israël, le pays de Dieu, hein, disons hier. Parce qu'Israël était beaucoup plus le pays était beaucoup plus le pays appartenant à Dieu que le pays appartenant au peuple d'Israël. Hein. Ceci est précisé au livre de Lévitique, par exemple. Au livre du prophète Osée aussi. Hein. Dieu appelant la Palestine « mon pays ». Disant même à Israël, vous êtes ici chez moi, comme des étrangers. Alors, on les avait éloignés, on les avait acceptés. On les avait séparés de leur temps. C'était beaucoup, quand même. On les avait éloignés de Jérusalem, la ville du grand roi, la cité de David. On les avait éloignés de tout cela. Ils avaient même accepté qu'on ait touché à leur nom pour les changer. Ça s'était passé de leur temps. Vous savez qu'en Albanie, enfin, il y a eu une révolution dernièrement, qui s'est faite, j'allais dire, assez tranquillement, sans effusion de sang, mais du temps, justement, du gouvernement communiste, les communistes au possible, hein, eh bien, les gouvernements avaient décidé que tous ceux qui portaient des prénoms chrétiens devaient les changer. Ils avaient été mis au courant, comme ce fut mon cas. Alors, ce qu'ont connu Daniel et les compagnons, a pu se vivre encore tout récemment en Europe. Daniel, comme vous le savez, signifie quoi ?
Dieu est juge.
Dieu est mon juge. Voilà. Dieu est mon juge. On pourrait même traduire par Dieu est mon droit. Savez-vous quel nom il a reçu ? Belt. Attention, il ne faut pas la différence. Hein. Belt. Shazar. Ceci pour ne pas le confondre avec le roi Belshazzar, où il n'y a pas de T. Hein. Alors, pour faire la différence, il vaut mieux dire Belté-Shazzar. Parce que sinon, il pourrait avoir confusion entre le Belshazzar, roi de Babylone, n'est-ce pas, toujours de Babylone, avant l'invasion des Mèdes et des Perses au chapitre 5, au verset 1er du livre de Daniel, avec le nom qui lui fut donné là, Daniel. Hein. Alors, il y a le T qui fait toute la différence. Belté. Shazzar, tandis que le roi s'était appelé Belshazzar. Alors, qu'est-ce que voulait dire Belté-Shazzar ? Intentionnellement, je marque le T pour faire la différence entre le nouveau nom qu'avait porté Daniel et puis le nom du roi. Ben, ceci voulait dire simplement que Bel protège le roi. Voilà. Que Bel, de qui Bel ? Une idole de Babylone. Alors imaginez, il portait le nom d'une idole. Vous l'auriez accepté. On change votre nom pour que vous portiez, je ne sais pas, le nom d'une idole. Anania, l'Éternel est miséricordieux. Il s'est appelé Shadrach, adorateur du Dieu de la Lune, lui aussi. Mais enfin, on leur avait donné ces noms-là, et ils avaient accepté. C'est fou. Ils avaient accepté beaucoup, hein. De la part de Babylone, qui avait fait pression sur eux. Michaël, qui signifie quoi ? Qui est comme Dieu, Michaël. Hein ? Ben, il s'est appelé Meshach. Encore là, ça pouvait aller, qui signifie hôte du roi. C'est peut-être lui qui portait encore le nom le plus... Parce que il aurait pu penser à un autre roi que Nebuchadnezzar, au roi des rois, hein, à l'Éternel son Dieu. Et Azaria, l'Éternel aide, ou l'Éternel a secouru, apporter cet autre nom-là, c'est les Abed-Nego, pas Mego, hein, Abed-Nego, qui signifiait serviteur de Nebo ou de Nego, qui était là encore une divinité babylonienne. Alors imaginez un peu, est-ce que vous aurez accepté qu'on change votre nom comme ça ? Donc ils avaient beaucoup accepté, comme nous le disions tout à l'heure, ils avaient accepté d'apprendre la culture, les us et coutumes, la langue, les lettres de Babylone. On avait voulu les imprégner de la culture babylonienne jusqu'à la moelle des os. Fou ça, hein ? Est-ce qu'on a subi, nous, une telle pression ? C'est pas là. Je ne pense pas, hein ? En tout cas en France, non. Dans nos temps, j'entends. Précédemment, oui, hein. La France a quand même, dans le passé, souffert au niveau de fidèles chrétiens des choses absolument abominables. Mais ensuite était venu le temps où, et de façon progressive, on avait voulu attenter à leur foi. Alors là, ça devenait sérieux. Il va venir un temps, justement, où l'on voudra attenter à notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour nous mener à adorer quelqu'un d'autre, autre chose. Eh bien, quand l'ordre tomba de façon imparable, hein, en même temps qu'implacable, tous se prosternèrent au pied de la statue de façon conformiste. En fait, tous acceptèrent de se prosterner devant Nebuchadnezzar, excepté trois hommes, qui étaient restés debout, raides comme la justice. Quel témoignage, hein ? Alors, Nebuchadnezzar avait fait installer des guetteurs. Alors, essayez de voir qui ne va pas se prosterner. Et je veux leur nom, très vite. L'ordinateur n'était pas là. Mais en fait, ça s'était fait très rapidement. Ah ben voilà. Il y a trois hommes, hein, auxquels tu as donné des situations importantes et qui maintenant te défient en face. Hein. Trois hommes. Ah, qui sont-ils, hein? Ces trois hommes-là, du nom de Hananiah, Mishaël, Azariah, Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé de se prosterner devant la statue, devant toi, en quelque sorte. Et évidemment, le roi en fut vexé, humilié, choqué, heurté. Mais comme il s'agissait d'un bon roi, vous savez, Jésus nous fait savoir que l'Antéchrist usera de la séduction pour nous faire chuter. Alors, je vous disais hier, il se peut que nous connaissions, disons, l'avènement de l'Antéchrist, qui sera déjà pour nous une épreuve. Non pas son règne difficile, mais l'avènement. Là, je parle donc toujours au conditionnel, parce que quand on approche ces questions-là, il faut être prudent. C'est Dieu seul qui sait comment les choses vont se passer. Mais je pense que nous pouvons dire que nous sommes destinés à être enlevés quand même avant la dernière semaine. Hein. Mais au début, il se peut que nous puissions voir monter cet Antéchrist et que le Seigneur nous donnera de pouvoir le discerner. Quels sont les textes ? Bien, en 2 Thessaloniciens 2, vous les connaissez. Alors l'apôtre met en garde les chrétiens de Thessalonique à propos de ce qu'on avait pu leur dire de l'avènement de l'Antéchrist comme si le son jour, plutôt l'avènement de Christ comme si le jour de Christ était déjà là, n'est-ce pas ? 2 Thessaloniciens 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler, mais dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors bien que l'apôtre croyait que le jour du Seigneur était assez imminent, bien, il se devait de croire dans le retour de Christ, il pouvait aussi penser qu'il n'était pas encore là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, là encore, question de séduction, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant le retour de Christ. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Là encore, hein, le fils de la perdition. À partir de ces textes, on peut penser que l'apostasie devrait se manifester avant le retour de Christ. Mais vous savez que le retour de Christ, et moi j'en suis persuadé, mais je respecte vos convictions, vous deviez penser différemment, je pense qu'il se fera en deux temps. Il se fera en deux temps, un premier temps, le Christ maintenant comme un voleur, on n'a pas le temps de développer toutes ces choses, et pour prendre à lui son Église, et dans un deuxième temps, venant avec tous ses saints pour régner sur la terre, c'est à ce moment-là, 7 ans après, en fait, dans laquelle se situera cette dernière semaine de Daniel, qu'alors le Christ, revenant avec son épouse, les siens, viendra régner sur cette terre, rendant à Israël ses prérogatives premières, et faisant de lui le peuple avec une nette supériorité sur toutes les nations, le faisant missionnaire jusqu'aux extrémités du monde. Bon. Alors, Jésus lui-même, il est tout à fait clair, dans les chapitres qui concernent les derniers temps, a parlé d'un retour furtif, soudain, comme un voleur, dit-il. Comme un voleur. Matthieu 24, 42, par exemple. Hein, si le maître de la maison, dit-il, et je traitais de ces choses, je m'en souviens plus. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit Le voleur doit venir, il veillerait, ne laisserait pas percer sa maison. Vous connaissez ces textes? De même, le Fils de l'homme viendra comme un voleur à l'heure où vous n'y pensez pas. Et le voleur vient toujours à l'heure où on n'y pense pas. Il n'envoie jamais un fax, ni un télégramme. Il ne vient pas avec tambour et fracas pour cambrioler votre maison. Il vient de façon furtive. Un voleur est pratiquement invisible. Et c'est après coup, en rentrant à la maison, qu'on s'aperçoit qu'il est passé. On a expérimenté ce genre de choses avec mon épouse. Je vous assure que tout était sens dessus-dessous. Mais le voleur, lui, on ne l'a pas vu. Hein. On n'avait pas vu du tout. Mais là, on a vu qu'il était passé. Hein. Parce que jusqu'aux moquettes qui avaient été soulevées, etc., tout avait été mis par terre, tout ce qui était dans les armoires. Il nous a fallu 3 mois pour remettre les choses en place. Mais alors, le voleur est invisible. Et Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. C'est pas moi qui le dis. À 2 reprises, au livre de l'Apocalypse, il dit quoi? Apocalypse 3:3. Voici, je viendrai comme un voleur. Apocalypse 16:15. Voici, je viendrai comme un voleur. Le voleur, dans cette parabole de son retour, enseigné par lui-même en Matthieu 24, c'est lui. Il doit venir prendre à lui son église dans la maison de ce monde. Il est question de maison percée. Il ne vient pas voler la maison. Il vient voler quelque chose qui lui est précieux dans la maison. Or, ce qui lui est précieux dans la maison, c'est son église. Hein, je le disais tout à l'heure. Il doit venir la chercher. Alors, si lui est le voleur, je ne pensais pas vous dire ça ce soir, mais pour que nous comprenions le retour de Christ, si lui est le voleur, il est curieux qu'il se soit comparé à un voleur. Mais il reste que c'est un vol légitime, puisque cette épouse est à lui, il lui appartient. La maison, c'est quoi? C'est la maison de ce monde. Le maître de la maison, c'est qui? C'est le Dieu de ce siècle, celui que Jésus a appelé le prince de ce monde. Et par cette parabole, qu'a-t-il voulu nous faire savoir? Que non seulement il est le voleur, mais qu'il ne voulait pas, et qu'il ne veut toujours pas, que le maître de la maison sache le jour de son retour. Vous avez compris, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, par là, le Seigneur nous fait savoir qu'il ne voulait pas que le diable sache le jour de son retour. C'est peut-être une des raisons qui ont fait qu'il ne nous en a rien dit, parce que s'il nous avait donné une date, on est tellement bavard qu'il y a belle lurette que le diable aurait apprise. Hein, cette date-là, c'est remarquable. Alors, il doit venir, dans un premier temps, de façon furtive, soudaine, comme un voleur, et dans un deuxième temps, alors il viendra en gloire, j'allais dire, avec tambour et trompette. Mais un voleur n'arrive jamais comme ça. Et si l'on veut être, j'allais dire, honnête avec les textes enseignés par le Christ lui-même, en Matthieu 24, en Luc 21, etc., en Marc 13, nous sommes quand même, j'allais dire, comme contraint de croire que ce retour, un seul retour, se fera, Dieu voulant, en 2 temps. Alors, peut-être qu'il s'agit là du retour en gloire, enseigné par l'apôtre. Alors, ça pourrait jouer, si vous voulez, parce que l'apostasie devra se situer sur la terre avant son retour en gloire. Maintenant, avant l'enlèvement, c'est une autre affaire. Parce qu'un peu plus loin, il est dit que l'Antéchrist, vous savez ce qu'il retient, on n'a pas de peine à savoir ce qu'il retient, c'est certainement la présence du Saint-Esprit sur cette terre, et surtout dans l'Église de Jésus-Christ, et l'Église est une force considérable qui s'oppose, j'allais dire, au diable, et qui s'oppose aussi à l'apostasie. Peut-on parler d'apostasie avant l'avènement de l'homme du péché? Je ne pense pas. L'apostasie viendra avec l'homme du péché, selon ces textes-là. Et dans un autre passage en Matthieu 19, il nous est dit que c'est Jésus. Alors c'est important. Il nous est dit que Jésus compare le divorce à une apostasie. À propos de divorce et de remariage, on était venu voir le Seigneur à propos de divorce. Et avec ces mots, n'est-ce pas, Moïse nous a autorisé une lettre de divorce. Jésus avait répondu aux Juifs. C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a accordé, autorisé une lettre de divorce. Et vous savez quel est le mot grec qui est employé pour divorce, rendu par divorce? J'étais stupéfait en le découvrant dans le grec. C'est le mot apostasie. Moïse vous a autorisé une lettre d'apostasie, parce que l'apostasie c'est un abandon. L'apostasie c'est l'abandon de la foi, l'abandon des valeurs fondamentales de l'existence. Voilà ce qu'est l'apostasie. Mais le divorce, si vous voulez, est dans une certaine mesure une apostasie quand on s'abandonne l'un l'autre. en se répudiant l'un l'autre. En fait, l'apostasie est une répudiation. Et pour ce qui est de cette apostasie avec l'homme du péché, c'est la génération de la fin qui va répudier Dieu, qui va répudier le Christ, et qui entrera réellement en révolte contre lui. Ceci, évidemment, nous aurions tellement de choses à dire qu'il faut réellement fermer la parenthèse et la digression, parce qu'on n'en sortirait pas. Alors, voilà pourquoi donc j'ai cru devoir faire allusion à toutes ces choses. L'apostasie ne viendra qu'avec l'homme du péché. Alors, nous pouvons dire que pour l'heure, nous avons amorcé un début d'apostasie. L'apostasie n'est pas là. Il y a simplement l'esprit d'apostasie, de l'antéchrist qui est à l'œuvre, en attendant que lui arrive. Mais il se peut, comme je le disais tout à l'heure, que nous puissions assister à son avènement, et la Bible parle de son avènement comme d'une parousie, au même titre que la parousie de Jésus-Christ. Ce peut être, là encore, tout à fait étonnant. Voilà, alors nous avons la suite. Maintenant, il faut que j'arrête, parce que j'ai promis d'arrêter à mon écart. Eh bien, ces trois amis avaient refusé de se prosterner. Alors on avait fait chauffer la fournaise, cette fois plus. Nebuchadnezzar, qui était un roi assez sympathique, leur avait offert une deuxième occasion. Bon, une première fois, je comprends, vous n'avez pas voulu. Bon, ben écoutez, voilà, je vous offre une deuxième occasion, je suis chic. Hein. Alors, vous allez recommencer. Mais vous allez recommencer tout seul. Alors imaginez un peu la scène. Tous les chefs d'État, là, tous les satrapes, les magistrats en train de regarder à ces trois hommes. Mais qu'allait-il faire, hein? Allez, vous avez une deuxième occasion. Vous voyez, moi, je ne veux pas vous jeter dans la fosse aux lions. Mais sache, au roi, on ne se prosternera pas. Parce qu'il est pas pour rien. Devant la statue. Non, ne crains pas le feu. Notre Dieu est capable de nous délivrer du feu. Et il a été reconnu par les historiens, les archéologues et tout, que Babylone punissait très souvent par le feu. Tandis que la Perse, après Babylone, jamais les Mèdes et les Perses. Parce qu'il existait au sein des Mèdes et des Perses le culte de Zoroastre, qu'avait introduit un certain personnage du temps de Babylone. Et le culte de Zoroastre est précisément le culte du feu. Et on ne brûlait jamais du temps des rois, des Mèdes et des Perses, parce que c'eût été souiller le feu qui était considéré comme une divinité. Alors on avait, voilà pourquoi du temps de Darius, on n'avait pas jeté Daniel dans une fournaise, mais dans la fosse aux lions. Et il était aussi reconnu, et reconnu par nos historiens, que les Mèdes et les Perses punissaient très souvent par le biais de bêtes fauves, hein, et notamment par des lions. Eh bien non, nous n'obéirons pas. Alors évidemment, la fournaise chauffait cette fois plus. Ces soldats qui avaient été triés sur le volet, hein, pour lier Daniel et pour augmenter la puissance de la fournaise, en jetant ces trois amis dans le feu, avaient été tués par la puissance du feu. Et il est même dit que ce feu avait été tellement ardent qu'il avait effrayé Nebuchadnezzar lui-même. Et puis Nebuchadnezzar s'était approché pour contempler ce barbecue de chair humaine, pour les voir rôtir, hein. Et en y regardant bien, il a dû se dire « je prends un coup de vieux ». Combien d'hommes avons-nous jeté dans la fournaise? Trois. Moi, j'en vois quatre. Ah, c'est fou. Extraordinaire. Hein? Cette promesse de Dieu d'être avec les siens en toutes circonstances. Et qui était celui qui avait la ressemblance au Fils de l'homme, là, hein? C'était le Christ. Hein? Présent avec les siens. Voici, je suis tous les jours avec vous. Jusqu'à la consommation des siècles. Jusque dans le feu. Ça, c'est une preuve que le feu ne nous est pas épargné. N'ayons pas cet évangile. Hein. Beaucoup disent, une fois chrétien, on ne souffre plus, tout va toujours aller dans le merde du monde, on n'est jamais malade, nos affaires marchent, l'évangile de la prospérité, attention. Hein. Certainement pas. Alors, on peut avoir des épreuves terribles, comme ce fut leur cas. Et pourtant, ils avaient mis leur confiance en Dieu. Alors pourquoi le feu? Et souvent, ça nous arrive. Mais notre confiance en Dieu, pourquoi souffre-t-on? Pourquoi Dieu permet-il ceci, cela, etc. Telle opération, telle maladie, telle... Dieu permet. Alors, seulement Dieu se situe avec nous. C'est toute la différence. Et le Seigneur était avec ses trois dans la fournaise ardente qui ne les avait pas atteints. Ils éteignirent la puissance du feu, dit Hébreux 11, hein, parce que le Seigneur était avec eux au milieu d'eux. Et quel témoignage alors ils avaient pu rendre. Alors, pour terminer, pour clore, parce que j'étais quand même encore un peu trop long, il est difficile de traiter toutes ces choses comme ça trop rapidement. Dieu cherche quoi dans la Babylone moderne ? Des témoins. Qui, dans la vallée de Dura, ce monde, hein, c'est comme une vallée de Dura, des témoins, des chrétiens, qui restent